La parole de Dieu se trouve dans le livre de Jean, chapitre 20, versets 24 à 29. Jean 20, 24 à 29, Thomas appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux. Lorsque Jésus vint, les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans sa main la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, garde ma main, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Prions pour pouvoir recevoir la parole de Dieu. Prions pour que le Saint-Esprit parle à travers la Vekedongim pour que Dieu lui donne la sagesse, la connaissance et la puissance de la parole. Et prions pour que nous puissions avoir la puissance qui nous permet d'obéir au Saint-Esprit. Dieu le Père, nous avons été dispersés ici et là et nous sommes réunis pour te glorifier et pour te servir ce jour saint. Que tous ceux qui sont venus au devant de toi aujourd'hui reçoivent ta grâce et ta bénédiction. Que tous les membres de l'Église Saint-Honoré et tous les Bériens qui t'adorent, ou ici à l'étranger, puissent recevoir ta grâce pendant ce culte. Qu'aucun d'entre nous ne erre dans le monde, que nous puissions aller au devant de toi aujourd'hui. Je prie au nom de Jésus. Est-ce que vous avez bien passé la semaine dernière? Est-ce que vous êtes sorti vainqueur? Applaudissons pour nous-mêmes qui avons réussi la semaine dernière. Regardez, ne regardez pas moi, mais regardez votre voisin voisine. Chantons le cantique 183 et chantons ce cantique spirituellement et avec une grande foi.
Jésus
est Dieu. Lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Jésus est Dieu. Dieu est celui qui vit éternellement, bien qu'il ait créé les cieux et la terre. Et toute chose, en étant vivant, le monde ne peut voir celui qui a fait cette création tout en voyant ce qu'il a créé. La foi, c'est de croire à celui qui a créé, non pas de croire à ses créatures. Croire après avoir vu, ce n'est pas une vraie foi. Croire sans le voir, c'est cela la vraie foi. Douter, c'est le clou et la lance qui perce la main et le côté de Jésus. De la main de Jésus a coulé le sang et à partir de ses côtes a coulé de l'eau. À cause de toutes les hommes ont tué Jésus et sont en train de tuer l'Église. Comment faire les âmes dont le cœur est endurci et qui doutent? La foi, c'est de vaincre le doute. Le Saint-Esprit est venu afin de faire disparaître le doute. Il faut mener la vie de la foi par le Saint-Esprit pour que nos âmes vivent. Menons la vie de la foi par le Saint-Esprit. Il faut croire en lui et en toutes choses, et lui obéir et obéir aussi au Saint-Esprit pour que nos âmes vivent. Si nous transcendons le Saint-Esprit, nous cherchons à croire de façon charnelle, et cela nous mènera à la perdition spirituelle. Jésus-Christ est Dieu, celui qui fait vivre nos âmes. Le Saint-Esprit travaille aujourd'hui encore et accroît la foi de ceux qui croient aujourd'hui encore. Croyons en Dieu et croyez même sans le voir.
Amen. 하나님은
Dieu vit éternellement. Alors nous disons de nombreuses prises que nous croyons à celui qui est vivant. Mais lorsque vous écoutez ce genre de sermon, vous dites « Ah, le pasteur répète encore la même parole », alors là, vous n'êtes pas bien intéressé par cette parole-là, mais c'est vraiment redoutable, cette attitude est dangereuse. Croire en Dieu, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Lorsque nous allons, par exemple, à une exposition, il y a beaucoup de tableaux bien dessinés. Et alors, lorsqu'on voit un tableau bien dessiné, on dit « Ah, ce tableau est vivant !» Et les yeux sont vivants, mais ce n'est qu'un tableau, et c'est abstrait. Mais cela ne signifie pas que Dieu est vivant de manière abstraite. Notre Dieu est réellement vivant. Lorsqu'on parle des hommes, par exemple, l'homme, dans le dictionnaire coréen, l'homme, et en coréen, saram, saram, est celui qui bouge, celui qui vit. Mais vous et moi, nous sommes nés. Dans le monde, nous voyons d'abord nos parents qui sont en vie. Nous croyons tout le monde qui vit dans le monde. Parce que nous sommes en vie, c'est pourquoi nous pouvons voir ceux qui sont en vie. De la même manière, notre Dieu est en vie, il est vivant. Et alors, Dieu nous a donc et permis de posséder la foi qui croit en cela pour que nous puissions avoir la sagesse et la connaissance qui nous permet de croire en cela. La parole est devenue chère et venue au monde. Alors, cette parole est devenue donc un homme. Et cet homme est venu parmi les hommes. On peut se dire comment Dieu peut intervenir, même dans mes affaires, dans ma vie. Vous pouvez ainsi raisonner. Mais lorsqu'un homme a été conçu dans le ventre de sa mère, il était tout petit. Il était vraiment minime, c'est pourquoi il ne peut pas être vu avec les hommes humains, mais ce bébé est en vie. C'est une réelle existence. Donc, mais la taille de cette existence est tout minime. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle la conception d'un homme. Donc, ce bébé croit dans le ventre de sa mère. Donc, voilà, le ventre de sa mère gonfle et enfante. Alors, ce bébé croit, il devient adulte. Alors, c'est pourquoi, en général, et nous pouvons faire des expériences générales en vivant dans ce monde. Ces expériences générales ont été toutes connues par Jésus-Christ aussi. Il a donc expérimenté la vie humaine. Il a connu la société humaine. Il a été méprisé, il a été insulté. Et puis il a aussi été méprisé parce qu'il n'a pas bien éduqué. C'est ça la vie humaine. C'est ainsi que Jésus-Christ a expérimenté toutes sortes d'expériences humaines. Il a connu aussi ce qu'était l'insulte. Il a connu aussi quelle était la maltraitance. Alors dans ce monde, celui qui n'est pas pécheur peut être maltraité et celui qui est innocent peut être condamné. Et c'est ça le monde. Et c'est ce qu'il a expérimenté. Il a été crucifié, il est mort, il est entré dans le tombeau. Il est devenu un homme pour goûter à la mort. Il est devenu un être humain pour goûter à la vie humaine. Lorsque Jésus-Christ a été conçu dans le ventre de sa mère, alors, voilà, Dieu a dit, tu auras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il est le fils de Dieu. Alors, Dieu nous a donné donc un grand message. Voilà, lorsque le bébé a été conçu dans le ventre de sa mère, il est tout petit, tout minime, mais Dieu s'intéresse à ce bébé qui est petit. Par exemple, il a vu David, par exemple, lorsqu'il était tout petit. Donc, David a dit, lorsque, même avant que je sois conçu dans le ventre de ma mère, Dieu m'a connu. Voilà, c'est ainsi que Dieu s'intéresse à nous, même à partir du moment où nous avons été tout minimes. C'est ça l'intérêt de Dieu. Nous sommes tous en vie. Dieu est venu dans le monde. Il est venu parmi les hommes. Il est mort. Et comme nous, ce n'est pas parce que sa longévité a été mise à la fin, il était mort, mais il a été tué par les hommes. Mais il a été ressuscité après sa mort, parce que Dieu l'a ressuscité. Et dites amen si vous y croyez. Donc il a été ressuscité, mais il a été enlevé dans les cieux devant beaucoup d'autres personnes. Et Jésus a dit, attendez un peu, et moi je vais dans les cieux, ne quittez pas Jérusalem. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues loin de Jérusalem, mais ne quittez pas Jérusalem et attendez un peu, parce que je demanderai au Dieu le Père de vous envoyer le Saint-Esprit. Alors, 10 jours après, Jésus leur a envoyé le Saint-Esprit, donc ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Cette parole est encore valide et cette parole se réalise jusqu'à aujourd'hui. C'est ainsi que Dieu est vivant. Lorsque vous menez la vie de la foi, voilà, je pense que ça fait quelques mois que vous avez commencé à mener dans la vie de la foi, par exemple. Mais certains nombre de personnes, ça fait des décennies que vous avez mené la vie de la foi. Alors, à ce moment-là, vous avez été exaucé à nombreuses reprises, n'est-ce pas? Si vous n'avez jamais répondu, même si vous avez prié, vous avez été totalement abandonné de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu le Père connaît nos besoins personnels. Il connaît déjà nos besoins avant que nous en parlions. Donc, il faut que nous glorifions d'abord Dieu le Père pour qu'il puisse remplir nos besoins. Si nous prions à son nom, il nous exauce, il nous écoute, ainsi il nous exauce. C'est ainsi que nous pouvons être répondus. Exauce, c'est par exemple, vous êtes tombé malade. Vous êtes tombé malade. Alors, mais vous avez prié pour être guéri de votre maladie. Il y a donc certains qui ont prié pour vous. Vous avez été guéri de vos maladies suite à la prière. Mais est-ce que c'est un hasard? Il y a eu déjà la promesse du Seigneur Jésus et cette promesse a été accomplie, concrétisée. C'est l'expérience que nous pouvons faire seulement dans le christianisme. Donc, ce n'est pas un hasard. C'était une expérience bien vécue. Par exemple, nous avons beaucoup de fièvre et nous avons eu beaucoup de souffrance. Mais nous avons été libérés de cette fièvre. Nous avons été libérés de cette souffrance. Nous avons été guéris de notre maladie. Et c'est l'expérience que nous avons vécue parce qu'il est vivant et il travaille encore. C'est la raison pour laquelle nous pouvons faire ce genre d'expérience. S'il n'est pas vivant, il ne peut pas nous envoyer le Saint-Esprit. Hein. Donc, tout a été fini. Et certains disent et il n'y a plus le Saint-Esprit, il n'y a plus le Pentecôte. Mais voilà, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il y a des milliers d'années, Jésus-Christ a travaillé, il travaille encore aujourd'hui. De la même manière, par exemple, hier, notre mère nous a nourris, nous a fait manger. Et il travaille encore parce qu'elle est encore en vie. De la même manière, Jésus-Christ est toujours en vie. C'est pourquoi il travaille en notre faveur. C'est pourquoi il faut que nous croyions en son existence. Quel est le témoignage du Saint-Esprit? Il fait en sorte que nous puissions croire en Jésus-Christ. Si nous n'avons pas reçu la plénitude du Saint-Esprit, nous pouvons nous errer dans les ténèbres. Mais si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous pouvons être toujours dans la lumière. Et dans cette lumière, nous pouvons faire beaucoup d'expériences, toutes sortes d'expériences. Mais il n'y a pas d'expérience parce que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Il y a la manifestation du Saint-Esprit pour l'utilité commune. Donc, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous pouvons faire toutes sortes d'expériences. Il est vivant et celui qui est vivant, fait le travail qu'il nous a promis. Il nous donne sa grâce, il le bénit. Par exemple, aujourd'hui, il pleut beaucoup. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsqu'il pleut, voilà, lorsqu'il y a de fortes pluies, c'est étonnant, n'est-ce pas? C'est surprenant. De la même manière, lorsque Dieu veut nous bénir, il nous bénit comme les pluies diluviennes. C'est vraiment surprenant. Donc, si nous pouvons être ainsi bénis, c'est ce que nous devons croire. Il faut y croire. Par exemple, vous dites, moi, je ne suis pas intéressé par la bénédiction. Et alors, lorsque vous adoptez une telle attitude, vous pensez que cette attitude est raisonnable et comment est basée sur votre raison est noble. Mais ce que nous devons faire, c'est de croire. Dieu nous donne sa grâce. Et qu'est-ce que la grâce? Qu'est-ce que la grâce? Est-ce que vous avez reçu la grâce? Quelqu'un dit, j'ai participé à une croisade, alors je lui demande, est-ce que vous avez reçu la grâce? Il me dit, non, je n'ai pas reçu de grâce encore, je n'ai pas encore reçu la grâce. Si vous dites que vous n'avez pas reçu la grâce, c'est parce que vous n'avez pas cru en Jésus. Il est dit dans 2 Corinthiens 13, 5, examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi, testez-vous vous-même et alors obtenez la confirmation que vous êtes en Jésus-Christ. Si vous ne pouvez pas être sûr du fait que Jésus-Christ est en vous, vous avez été déjà abandonné. Maintenant, vous assistez à ce culte, mais il n'y a pas le salut dans les religions. Mais les gens de ces religions participent aux services offerts. Ils font beaucoup d'efforts personnels et ils font beaucoup d'actes visibles, mais ils ne peuvent pas être sauvés. Alors, de la même manière, si vous ne recevez pas la grâce, vous participez seulement aux rites religieux, mais vous n'avez pas une vraie foi. Même si vous avez participé à certains rites religieux, vous êtes déjà abandonné si vous ne recevez pas la grâce. Alors, si vous ne pouvez pas recevoir la grâce, c'est parce que vous avez déjà abandonné. La Bible dit ne pas avoir la foi, ne pas arriver à croire, c'est parce que vous ne pas recevoir la grâce. Alors, si vous n'arrivez pas à croire pour ne pas recevoir la grâce, c'est parce que vous êtes déjà destiné à périr. De Corinthiens 4, verset 13. Si vous n'avez pas reçu la grâce, vous avez déjà abandonné. Levez la main si vous n'avez pas reçu la grâce. Alors, pour ne pas être abandonné, il faut recevoir la grâce. Dites amen si vous avez reçu la grâce. Il ne faut pas dire amen dans la crainte, il faut dire amen de manière sincère. Et c'est vraiment important, ce n'est pas ridicule. Donc, qu'est-ce que la grâce, donc, que vous devez recevoir? Dites amen si vous avez reçu la grâce. Et comment pouvons-nous recevoir la grâce? Alors, qu'est-ce que la grâce de Dieu? Alors, la grâce peut être reçue sans aucun mérite de notre part. Donc, notre mérite n'est pas important. Et notre mérite, le mérite humain ne compte pas. Le mérite humain ne peut pas être reconnu devant Dieu. Alors, si nous avons un certain mérite, même qu'il soit minime, on ne peut pas recevoir la grâce de Dieu. Il faut que nous n'ayons aucun mérite de notre part pour recevoir la grâce de Dieu. Alors certains disent, j'ai beaucoup prié, et alors je suis très zélé, à ce moment-là je peux recevoir la grâce de Dieu, mais la prière ne nous permet pas de recevoir sa grâce. Si nous prions, nous pouvons être exaucés et récompensés, ou bien nous pouvons recevoir ces bénédictions promises si nous prions, parce qu'il tient ses promesses, parce qu'il nous a dit, si vous demandez en mon nom, je le ferai, c'est sa promesse. Jean 14, 13, 14, donc il tient ses promesses, hein, tout simplement. Donc, mais la grâce, c'est différent. Ce n'est pas la prière qui nous permet de recevoir sa grâce. Et ce n'est pas parce que nous avons fait beaucoup de services bénévoles pour recevoir sa grâce. Alors, certains animateurs disent qu'il faut travailler à l'église beaucoup pour recevoir la grâce, mais ce n'est pas correct. Alors, la grâce, comment nous pouvons la recevoir? Et dans, alors là, la justice humaine ne nous permet pas de recevoir la grâce de Dieu. Si nous avons besoin d'une certaine justice humaine, alors si nous avons reçu sa grâce, c'est pas correct. Parce que la grâce, c'est le cadeau de Dieu qui le donne gratuitement à 100%. Et il y a aussi la récompense. Céleste, il y a beaucoup de sortes de récompenses. Hein. Il y a par exemple la couronne céleste. Alors nous allons donc tous recevoir la récompense céleste. Mais il n'y a pas en fait la grâce dans la récompense céleste. Cela signifie que selon le travail que nous avons effectué, nous serons récompensés. Donc si on n'a pas travaillé, on ne peut pas être récompensé. On peut être béni dans ce monde. À ce moment-là, si nous travaillons beaucoup dans ce monde, dont la bénédiction terrestre, céleste, constitue toute la récompense de la part de Dieu. C'est une récompense de sa part. Et nous mourrons un jour et nous entrerons dans les cieux et nous serons récompensés dans les cieux. Parce que nous avons fait beaucoup d'efforts sur cette terre selon la justice que nous avons effectuée dans ce monde, selon le travail que nous avons fait dans ce monde, selon les efforts que nous avons entamés dans ce monde, nous serons récompensés. Et dans les cieux, par exemple, quelqu'un a reçu beaucoup de grâce, mais il n'a pas travaillé pour le royaume des cieux, il n'a pas obéi. Et en plus, il n'a pas accumulé de mérite et pour Dieu. À ce moment-là, il ne sera pas récompensé dans les cieux. Ils croient en Jésus. Ils ont reçu la grâce. Donc, ils seront sauvés, bien sûr. Mais c'est un salut qu'ils obtiennent dans le feu. Cela signifie qu'ils ont été sauvés dans le feu en étant nus. Dans le feu, et on sera presque nu parce qu'on est brûlé, et on sera noir. Nos vêtements seront brûlés et deviendront noirs. Donc, dans ce feu, nous serons sauvés à peine. Donc, si votre mérite brûle, vous serez malheureux, mais vous serez sauvés quand même, mais c'est un salut que vous obtenez dans le feu. 1 Corinthiens 3, à partir du verset 10, il faut que votre foi soit remarquable. Et pour cela, il faut que vous fassiez beaucoup de sacrifices. Et il faut que vous fassiez beaucoup d'investissements pour avoir une foi semblable à l'or ou à l'argent. Par exemple, il faut que nous donnions beaucoup d'offrandes. Il faut que nous fassions beaucoup de services bénévoles. Il faut que nous fassions beaucoup d'efforts personnels, non pas pour les autres, pour ne pas être vus par les autres, mais pour nous-mêmes, pour être récompensés par Dieu, pour être récompensés enfin, pour nous-mêmes, en fait. Alors là, dans, vous vivez quand même dans ce monde, vous mangez, mais si vous ne donnez pas la dîme à Dieu, vous êtes déjà maudit. Alors, par la croisade de cette semaine, nous allons apprendre beaucoup de choses fondamentales. Alors, si nous comprenons ces choses-là, nous pouvons manifester beaucoup de signes. En temps ordinaire, même si on ne croit pas en Jésus, on peut gagner de l'argent, même si on ne donne pas la dîme à Dieu, on peut manger, on peut conduire des voitures et on peut voyager avec nos enfants, on peut ainsi saisir de la vie charnelle. Mais lorsqu'on est en difficulté, alors on peut demander l'aide à Dieu. Mais si on ne donne pas la dîme à Dieu, on ne peut pas être secouru par lui. Parce que la dîme est semblable à la racine. Donc s'il n'y a pas de racine, on ne pourra rien obtenir. Donc qu'est-ce que la Bible dit? La Bible parle de la récompense et de la bénédiction. Ces deux choses sont la même chose. On peut être béni même sur cette terre et on peut aussi être récompensé dans les cieux si on a des mérites. Donc selon ce qu'on a semé, on va récolter. Qu'est-ce que la Bible dit? Si on donne les offrandes à Dieu par contrainte ou par avarice, ce ne sera pas bon parce que il faut que nous soyons bénis et récompensés. Pour cela, il faut que nous préparions nos offrandes en avance et par la foi, à ce moment-là, on pourra être aimé de Dieu. Mais si on est avaricieux et si on donne la dîme par contrainte et en fait la parole et selon ce qu'on a semé, on va récolter, cette parole va se réaliser telle qu'elle. Donc pour que nos âmes soient récompensées dans les cieux, je ne parle pas d'une récompense terrestre. Hein? Et alors pour la récompense, on pourra la recevoir dans les cieux, même si vous agissez bien en tant que diacre. Et alors, quels étaient vos vœux que vous avez faits lorsque vous avez été consacré diacre? Et il ne faut pas mépriser les prophéties. Donc lors de la consécration, je vous bénis, n'est-ce pas? Mais si on méprise les prophéties qui ont été faites, données lors de la consécration, ce n'est pas bien ça. Et alors, je ne vous ai pas consacré pour que vous puissiez mépriser ou dédaigner ou critiquer le pasteur. Pour que vous puissiez être utile à l'Église, je vous bénis, je vous consacre pasteur, je vous consacre pour diacre. Mais certains diacres consacrés ne tiennent pas leurs promesses. Mais même s'ils pleurent, le moment sera tardif. Donc avant que la porte soit fermée, il faut entrer dans le royaume des cieux le plus vite possible. Cela signifie qu'il faut qu'on se repente le plus vite possible. Moi, je parle de la Bible. Donc voilà, concernant la récompense, on peut recevoir la récompense dans les cieux, mais concernant la bénédiction, on peut être béni sur cette terre, même si on ne peut pas être sauvé dans ce monde, on peut être béni si on observe la loi. Si on obéit à la loi telle qu'elle, et même si c'est très difficile, dur, on peut être béni, mais il n'y a pas le salut dans l'observation de la loi, mais on peut être béni si on observe bien la loi. Parce que voilà, on peut être récompensé ainsi, parce qu'on fait des efforts devant Dieu en observant la loi. Mais il n'y a pas le salut hein, dans la loi. Donc, ce qui importe le plus pour nous, c'est la grâce de Dieu. Il faut que nous recevions la grâce pour être sauvés du péché. Mais donc, on fait des efforts personnels à l'Église. Ce n'est pas parce qu'on a fait beaucoup de services bénévoles, on a donné beaucoup d'offrandes pour être sauvés. Il faut recevoir la grâce de Dieu pour le salut, en fait, pour l'obtention des salut. Donc, il faut recevoir la grâce pour obtenir le salut. Alors, dans la grâce, aucun effort personnel est utile. Et aucun effort personnel ou humain ne peut être reconnu. Et en ce qui concerne la grâce, répétez, en ce qui concerne la grâce, aucun effort personnel humain ne peut être reconnu. Encore une fois, on ne peut pas recevoir la grâce de Dieu avec un effort personnel humain. Notre effort personnel, notre peine prise ne sont pas utiles pour l'obtention du salut. Pour l'obtention de la grâce. La grâce est la grâce, c'est tout. Il ne faut pas vivre de manière capricieuse. Si vous vivez de manière capricieuse, vous ne pouvez pas obtenir grand-chose. Parce que c'est ce qui est déjà dit dans la Bible. Donc, recevez la grâce. Recevez la grâce. Mon âme reçoit 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 la grâce. Comment pouvons-nous recevoir la grâce? Ce n'est que par la foi que nous pouvons recevoir la grâce. Ce n'est que la foi qui nous permet de recevoir la grâce de Dieu. Dieu est vivant, mais il ne faut pas y croire de manière abstraite. Dieu nous a envoyé Jésus-Christ. Jésus est Dieu. Ce n'est pas parce que nous l'avons vu que nous croyons en lui. Nous ne pouvons pas le voir, mais nous croyons en lui. Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Nous croyons que Jésus est donc Dieu. Il est Dieu. Dieu nous a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique. C'est le Dieu que nous servons. C'est ça notre foi. Et alors ce Dieu doit être cru par nous. Il est vivant, il est en vie. Il est mort, il est mort dans ce monde et il a été tué. C'est ce que nous devons croire aussi. À ce moment-là, nous pouvons croire que nos péchés ont été aussi tués. Il faut que nous croyions aussi que Jésus a été ressuscité pour pouvoir croire que Jésus travaille aujourd'hui encore en étant en vie. Et Jésus qui est en vie nous soutient encore, nous aime encore. Et voilà, il travaille en notre faveur. Le mot coréen, onchon, c'est recevoir la grâce et son amour. Donc, parce que le mot chong, c'est. Chong signifie l'amour. Donc, il faut que nous recevions sa grâce et son amour. Donc, si nous avons reçu sa grâce, c'est parce que nous avons été aimés de lui et nous avons obtenu Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que l'amour? Ce n'est pas parce que nous avons accumulé beaucoup de mérites que nous avons été aimés de lui. Et c'est parce que nous avons cru en Jésus-Christ que nous avons été aimés de lui. Alors, qu'est-ce que nous avons obtenu en recevant sa grâce? Ce n'est pas parce que nous sommes dans l'ignorance nous méprisons sa grâce. Alors, qu'est-ce que nous obtenons en recevant sa grâce? Qu'est-ce que nous obtenons alors en recevant sa grâce? Par exemple, d'abord, c'est la rédemption. Qu'est-ce que la rédemption? Ce n'est pas parce que nous avons fait des efforts personnels que nous pouvons recevoir sa rédemption. Ce n'est pas parce que nous avons pleuré, ce n'est pas parce que nous avons prié toute la nuit que nous pouvons obtenir la rédemption. C'est par la grâce que nous pouvons obtenir sa rédemption. Alors, est-ce que vous avez reçu sa grâce? Est-ce que vous avez été racheté ou pas? Vous pouvez connaître votre état actuel. Par exemple, si vous pouvez voir les faits des autres, ce n'est pas c'est parce que vous n'avez pas reçu sa grâce. Par exemple, quelqu'un, il était mauvais par le passé, il était inutile, par exemple, il était vraiment malin, mais il est venu au devant de Jésus, il a été sauvé de son péché. C'est ce que nous devons croire, c'est ce que nous devons reconnaître. Si nous ne reconnaissons pas ce changement, il renions le sang de Jésus qui l'a pardonné. C'est pourquoi Jésus a dit en parabole, si vous pouvez voir les fautes des autres, c'est parce que vous avez de plus grandes fautes en vous. Donc, si nous avons reçu sa grâce, il faut que nous soyons sauvés de nos péchés et il ne faut pas voir les fautes des autres. Si nous avons reçu sa grâce, ce n'est pas la peine de penser aux fautes des autres. Moi, j'ai mené le pastorat pendant un demi-siècle, hein, pendant 50 ans, même 60 ans. J'ai expérimenté beaucoup, beaucoup de choses pendant cette période, mais je n'en parle pas pour moi-même en fait. Mais c'est pas la peine de voir le fait des autres, les fautes des autres. Si tu peux voir les fautes des autres, c'est parce que j'ai de plus grands péchés. Par exemple, avant qu'ils croient en Jésus, ils étaient mauvais. Hein? Ils ont été dans la corruption, mais ils ont été rachetés. C'est pourquoi maintenant, ils sont saints, ils sont justes, et c'est ce que nous devons croire. À ce moment-là, nous pouvons bénéficier de la puissance du sang de Jésus qu'ils les ont purifiés, parce que ce sang-là m'a aussi purifié. Moi, j'ai été justifié par le sang de Jésus, mais quelqu'un d'autre, lui, il est sale parce qu'il n'a pas été pardonné de ses péchés par Dieu. Donc, le sang précieux auquel je crois n'est pas valide non plus. Comme j'ai prêché la semaine dernière, qu'est-ce que la foi que nous avons obtenue? Vous pouvez pardonner les fautes des autres. Si vous ne les pardonnez pas, ces péchés resteront. Est-ce qu'on a reçu la grâce de Dieu? Si vous avez reçu la grâce de Dieu, nous pouvons mener le pastorat, nous pouvons évangéliser. Et nous ne considérons pas les autres comme mauvais, mais nous les considérons comme justifiés, comme justes, justifiés par le sang de Jésus. C'est la raison pour laquelle, et alors nous pouvons traiter les autres de manière aimable. Mais il ne faut pas se dire, et il était mauvais, elle était mauvaise. Vous dites ce genre de choses, parce que ce n'est pas parce que vous n'avez été purifié par le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus les a pas purifiés. Donc ce sang-là ne peut pas vous purifier non plus. Donc vous êtes toujours pécheur ou pécheresse. Donc pendant la communion, pendant la Sainte Cène, tout le monde voit sa coupe et son sang et sa chair pour commémorer la rédemption que nous avons obtenue. Parce que par la grâce de Jésus, nous avons été sanctifiés, justifiés. C'est ce que nous devons reconnaître. Donc voilà, il ne faut pas donc accuser les autres, il ne faut pas condamner les autres. La chaîne de télévision SBS m'a déshonoré, ok? Mais alors, si vous croyez à ce qui a été dit par la chaîne de télévision, c'est parce que vous n'avez pas été racheté, en fait. Moi, je prêche l'Évangile, je prêche la vérité. C'est ce qui compte le plus. C'est ce qui doit compter. Pendant toute notre vie, alors je ne sais pas si vous, combien de temps vous allez vivre dans le monde, 20 ans ou 50 ans, mais il ne faut pas que vous voyez les fautes des autres pendant votre vie restante. C'est ce que vous devez faire vraiment. Donc il ne faut pas voir le péché des autres. Si vous, vous voyez les fautes des autres, vous ne pouvez pas mener le pastorat. C'est parce que c'est un vrai mensonge. Il faut que nous recevions sa grâce. Mais si on n'a pas la foi, parce que nous sommes toujours pleins de doutes, même si on invoque le nom de Jésus, et on est encore dans le doute. Alors Thomas a dit, même si vous avez dit, vous avez vu le Jésus ressuscité, il faut que je mets mes doigts dans les mains et les côtes de Jésus. Donc Jésus est apparu devant lui et il lui a dit, mets tes doigts dans mes mains et dans mes côtes. Mais alors, il ne faut pas que vous voyez pour croire. Et alors, c'est, vous serez bénis si vous pouvez croire sans voir. Qu'est-ce que la raison humaine? On parle beaucoup de ce qui est objectif. On parle beaucoup de l'objectivité parce que la raison est basée sur l'objectivité. La raison ne peut pas dépasser l'objectivité. Donc la raison nous amène à la vérification. Donc la raison n'est pas la foi. La raison nous amène à la vérification. Donc il faut que nous fassions une vérification pour voir si quelque chose est vrai ou pas. Donc cette raison-là ne peut pas nous sauver. Est-ce que vous avez bien compris? Donc, il ne faut pas que nous essayions de croire par la raison, mais il faut que nous ayons la foi. Mon âme, il ne faut pas que vous tu dépendes de la raison qui est l'attribut humain. Il faut que tu possèdes la foi qui est l'attribut spirituel. Certains veulent toujours vérifier des choses parce que le monde nous exige la vérification de toutes choses parce que nous sommes tous toujours fondés sur la raison humaine. Nous voulons avoir une réponse à toutes choses via la raison humaine. C'est ça la science, hein? C'est ça l'objectif de la science. Mais vous et moi, et au séminaire théologique, on fait des études hein, pour faire sortir les pasteurs. Mais 400 ans avant la création du christianisme, la théologie existait déjà. On ne peut pas voir Dieu parce que Dieu est invisible. Donc il faut que nous ayons la foi et dans le christianisme. Parce que maintenant, on traite ce qui n'est pas visible. Alors maintenant, on traite une vérité, on traite un fait qui n'est pas visible. C'est pourquoi on parle de la théologie, on parle de la philosophie. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que nous soyons bien clairs en ce qui concerne la foi. Et donc, en fait, Jésus a dit à Thomas, en fait, entre tes doigts dans mes mains, entre tes doigts dans mes clous. Et Thomas était plein de doutes. Donc, Jésus a été crucifié. Alors, Thomas voulait entrer ses doigts dans la main clouée. C'est ainsi que Thomas a crucifié de nouveau Jésus-Christ. Et avait à cause de ses doutes, et Thomas a crucifié encore Jésus-Christ. Alors, vous percez encore la main et les côtes de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il le blesse encore. Et en fait, parce que vous dépendez encore de votre raison humaine, c'est une méchanceté absolue. Est-ce que vous voulez encore entrer vos doigts dans la main, dans les côtes de Jésus-Christ pour le blesser encore? Pour ne pas mettre vos doigts dans la main, dans les côtes de Jésus, pour ne pas percer les mains et les côtes de Jésus-Christ, il faut savoir la grâce. Il faut avoir la foi. Si vous avez cette foi-là, vous avez été racheté. Alors que ce soit la philosophie, que ce soit la physique, et je ne sais pas, si vous avez commis des péchés, vous devez les supporter et, au niveau physique et philosophique. Mais concernant la foi, nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Si nous avons été purifiés par le sang de Jésus, les autres ont été aussi purifiés par ce sang-là. Donc il ne faut pas que vous voyiez les fautes des autres. Et il est redoutable de voir les fautes des autres. Pendant toute notre vie, et moi aussi, pour moi-même, pour les autres, pour nous-mêmes, il ne faut pas voir les péchés des autres. Il faut se voir la grâce de Dieu. En ce qui concerne la grâce, alors dans la grâce, il n'y a pas le mérite humain. Il faut que nous recevions la grâce de Dieu. Recevez la grâce. Recevez la grâce de Dieu. Et il faut aussi recevoir sa bénédiction et sa récompense. En fait, on ne peut pas recevoir, obtenir la bénédiction, la grâce. On ne peut pas recevoir la bénédiction et sa récompense en obtenant sa grâce. Il faut concurrencer et pour être récompensé et béni. On sent la grâce et notre mérite personnel est inutile. Mais en ce qui concerne la récompense, la grâce n'est pas utile. Alors, donc voilà, notez cela et soyez sûr de la signification de cette parole. Mais notre cœur est tout petit, pour moi étroit. Alors, selon un dicton coréen, on cite le nom d'un tout petit poisson. Et dans le ventre de cet insecte, il y a les intestins, mais les intestins sont tout petits. C'est pourquoi son caractère est très mauvais. Donc, au moment où il sort de l'eau, il meurt à cause de son caractère trop prompt et fort. Donc voilà, on fermente ces poissons pour pouvoir les manger. Au moment où il sort de l'eau, il meurt. Donc nous, en fait, on les met dans le sel pour en manger. Donc mettez votre cœur. Alors votre cœur est trop étroit comme ce poisson, je pense. Voilà, donc il faut que nous recevions la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Pendant 5 ou 6 mois, même 7 mois-là, notre Église est en crise. Mais regardez-moi. Moi, comment je crois en Dieu? Regardez la méthode selon laquelle je crois et apprenez la méthode que j'applique pour croire. Croyez. Mais il ne faut pas voir les autres. Et il ne faut pas douter non plus. Est-ce que Dieu va m'aider ou pas? Et alors, comme ça, vous évaluez vous-même. Est-ce que Dieu me donnera? Et c'est la question qu'on se pose. Mais pour dissiper ce genre de doute, il nous a donné le Saint-Esprit. Alors, non pas pour parler en langue, simplement, il nous a donné le Saint-Esprit. Pour que nous ayons des témoignages, il nous a donné le Saint-Esprit. Donc il faut que le Saint-Esprit dissipe les doutes qui sont en nous. Donc il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit pour ne pas douter. Si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vaincre le doute. Mon âme soit remplie du Saint-Esprit. Mon âme soit remplie du Saint-Esprit. Mon âme soit rempli du Saint-Esprit. Levez-vous. Levez-vous, soyez remplis du Saint-Esprit. Recevons la grâce de Dieu et soyons remplis du Saint-Esprit. Croyons, recevons sa grâce et soyons remplis du Saint-Esprit. Croyons, recevons sa grâce et soyons remplis du Saint-Esprit. Croyons, recevons sa grâce et soyons remplis du Saint-Esprit. Soyons remplis du Saint-Esprit. Et alors, pour ne pas avoir de doute, il ne faut pas que nous devenions une lance, un clou qui perce les mains et les côtes de Jésus. Soyons remplis du Saint-Esprit, dissipons tout le doute que nous avons.